Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygiène. Google et Apple sont condamnés à s'entendre, l'un a besoin de l'autre et inversement, mais ça n'empêche pas de se préparer au cas où. On a appris que Google avait développé un navigateur web pour iPhone qui utilise des technologies maison plutôt que celles d'Apple. Le signe d'une nouvelle bataille à venir, peut-être ou peut-être pas. On fait le point dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va se payer un petit retour en arrière avec Pierre. On va en effet parler d'un accessoire Apple un peu oublié aujourd'hui. Vous vous rappelez de l'oreillette de l'iPhone ? Eh bien, plongeons dans le passé aujourd'hui. Nous sommes le mardi 7 février. Voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Les navigateurs web sont les bienvenus dans l'App Store, mais ils doivent respecter une règle draconienne. Ces applications doivent utiliser le moteur de rendu web de Safari. En l'occurrence, il s'agit de WebKit qui donne de très bons résultats, mais il existe d'autres moteurs tout aussi performants. Chrome utilise par exemple Blink, du moins dans sa version de bureau et sur Android. Parce que sur iOS, forcément, Google n'a pas le choix, c'est WebKit ou c'est rien du tout. Mais ça n'a pas empêché le moteur de recherche de développer un navigateur web pour l'iPhone avec le moteur de rendu Blink. C'est pour un usage en interne, et si jamais Google voulait le distribuer sur l'App Store, il faudra forcément changer Blink par WebKit, sinon bah c'est niet. Enfin, c'est le cas jusqu'à présent, car demain, les choses pourraient changer. L'obligation d'utiliser WebKit dans les navigateurs web sur iOS fait en effet partie des pratiques d'Apple qui sont contestées par les régulateurs dans le monde entier. D'ailleurs, avec la mise en œuvre des nouvelles règles sur le numérique dans l'Union européenne l'année prochaine, il est fort possible qu'Apple autorise d'autres moteurs de rendu que WebKit. Pour l'utilisateur, ça ne changera probablement pas grand-chose du point de vue des performances dans un premier temps, mais dans les coulisses, ça fera une concurrence à WebKit et chaque éditeur de navigateur devra mettre le paquet pour prouver que son moteur est le meilleur. Au bout du compte, tout le monde devrait en profiter, à commencer par les internautes mobiles. Les moins de 18 ans ne sont pas censés pouvoir regarder des sites pornographiques. Lors de la connexion, ces sites demandent bien de certifier de son âge, mais enfin, tout le monde sait que ça n'a jamais arrêté personne. Le gouvernement veut y mettre bon ordre en renforçant la loi de protection des mineurs. À partir du mois de septembre, un nouveau système de vérification de l'âge devra être mis en place. L'idée est que le site en question reçoive la confirmation de l'âge de l'internaute par un tiers de confiance. Seule cette information sera donnée, rien d'autre. Et cela passera probablement par une application mobile ou par l'opérateur qui connaît déjà l'âge de son client. Il faut encore que tout ça soit mis au point. Pour le moment, il s'agit surtout d'un effet d'annonce. Comment le tiers de confiance, s'il n'est pas l'opérateur, sera en mesure de certifier l'âge de l'utilisateur ? La CNIL et l'ARCOM, qui est le régulateur du secteur des communications, donneront plus de détails cette semaine. Est-ce qu'il y a un avenir pour les appareils photos ? Les vrais appareils photos, je parle, pas ceux intégrés dans les smartphones, qui ont littéralement ravagé le marché des boîtiers photos. Eh bien, le bilan présenté par le CIPA, qui est l'organisation des constructeurs d'appareils photo, n'est pas brillant, mais ce n'est pas une catastrophe non plus. Il s'est vendu l'an dernier un peu plus de 8 millions d'appareils photo, ce qui est mieux que les prévisions des constructeurs. Ce sont surtout les appareils hybrides avec des objectifs interchangeables qui a tiré vers le haut, ce qui ressemble très clairement à un marché de niche. En 2011, c'était 122 millions d'appareils photo qui avaient été vendus, le secteur s'est vraiment effondré en 10 ans. Ce bilan 2022 montre aussi que les boîtiers avec objectifs interchangeables ont coûté beaucoup plus cher avec un panier moyen à 900 euros la bête. C'est deux fois plus élevé qu'en 2018. C'est aussi le signe que ces appareils ne s'adressent plus qu'aux professionnels et que le grand public a définitivement rejoint le camp du smartphone pour prendre des photos. Si vous êtes adepte des vieux films d'action des années 90 et 2000, vous êtes sûrement tombé sur ces méchants qui hurlent des ordres dans une énorme oreillette. À une époque, avoir ce genre de gros machin à l'oreille, c'était le signe que vous aviez réussi dans la vie, un peu comme porter une Rolex quand on a plus de 50 ans. Apple a succombé à cette mode avec l'iPhone Bluetooth Headset, lancé en 2007, en même temps que le tout premier iPhone. Avec Pierre, on va revenir sur cet accessoire qui a permis à Apple de se lancer dans les écouteurs sans fil bien avant les AirPods. Salut Pierre.
Salut Michael.
Alors cet iPhone Bluetooth Headset, on n'en a pas vu des masses finalement, alors qu'on a rapidement remarqué l'iPhone un peu partout dans les rues.
En fait, il y a surtout un problème avec cette oreillette, et c'est son prix. 130$, 120€ chez nous. Ça paraît pas si cher quand on voit les AirPods Pro à 300€, mais à l'époque, c'était très cher pour une oreillette, parce que c'est juste une oreillette pour téléphoner. principal problème, c'est la qualité audio qui n'était pas formidable, comme toujours avec ce genre de produit. Ça allait à peu près dans une pièce au calme, mais dès qu'il y a un peu de bruit avec le volume à fond, c'était difficile de se faire comprendre. Plus le fait que ce qu'on entend, c'est une qualité vraiment purement téléphonique des années 2000, et c'est pas top.
C'est sûr que c'était pas forcément génial comme produit, mais on peut quand même essayer de relever quelques points positifs. Par exemple, Apple faisait preove d'une certaine générosité dans le packaging, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui.
Ah oui, alors ça c'est sûr, parce que quand on achetait l'oreillette, on avait un dock qui permettait de déposer le téléphone et l'oreillette. Il servait aussi à jumeler automatiquement les appareils, ça c'était très bien fait. Et il y avait aussi un câble spécifique qui permettait de recharger l'oreillette en déplacement sur la même prise que l'iPhone. Ils ont enlevé le dock un peu après, ce qui a permis de baisser le prix du paquet à 100$. Et après, il faut bien dire que le produit, c'est plutôt joli. On est quand même assez loin des grosses oreillettes moches de l'époque qui faisaient le tour de l'oreille. On est dans un format assez proche des premiers iPhones au niveau volume.
Bon, voilà, c'est vrai qu'on fait assez vite le tour des atouts de cet accessoire, parce que pour le reste, comme tu disais, c'est pas brillant.
Non, alors... L'autonomie, c'était assez moyen, ça tenait 72 heures en veille, donc en théorie 3 jours, mais 5 heures en conversation, si on parlait pas trop quand même. La portée était pas géniale, comme c'était du Bluetooth 2, et voilà, il fallait pas avoir trop d'obstacles entre l'iPhone et l'oreillette, sinon ça, la qualité se dégradait encore plus, voire on avait des coupures. Dans certains cas, juste avoir l'iPhone dans la poche arrière du pantalon, ça coupait, quoi.
Apple avait limité l'utilisation de l'oreillette au coup de fil. Il n'était pas du tout possible d'écouter de la musique, par exemple.
Ouais, alors déjà, c'est une seule oreillette, c'est mono, donc c'est pas très pratique pour écouter de la musique. Mais oui, globalement, c'est vraiment, en Bluetooth, c'est vraiment le profil uniquement pour les oreillettes. Et avec l'iPhone, par exemple, on ne pouvait pas envoyer... la musique de Safari, il fallait retirer, utiliser un écouteur ou un casque. Sur un Mac, on peut l'utiliser pour écouter le son à partir de certaines versions de macOS 10, mais c'est vraiment de très mauvaise qualité.
Apple a arrêté les frais en 2009, mais ce Bluetooth headset a eu au moins un mérite, c'est que le constructeur a commencé à travailler sur des écouteurs sans fil dès cette époque.
Ouais, après il a fallu quand même longtemps avant que ça arrive vraiment. Les premiers AirPods, ils sont apparus en 2016. Et à part la taille et le format, mais c'est des choses finalement assez logiques, on ne sait pas vraiment quelle est la part réelle de l'héritage de l'oreillette dans les AirPods. Son seul avantage quand même, c'est que c'était un produit noir et on n'a toujours pas d'AirPods de cette couleur.
Eh bien, merci pour ce rappel d'un accessoire un peu oublié d'Apple. Salut Pierre.
Salut.
Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.